Je leur ai donné ta parole. Ils ont reconnu que tu m'as envoyé. Alors nous voulons entendre la parole que le Seigneur a posée sur le cœur de Fred et prier pour que cette parole nous fasse davantage connaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton règne d'amour que tu as inauguré en Jésus-Christ notre Seigneur. Lui, la parole ultime que tu as donnée au monde, cette parole que tu nous donnes encore aujourd'hui. Seigneur, nous voulons en être au bénéfice encore ce matin. Que ton Esprit Saint ouvre notre intelligence. Que ton Esprit Saint nous donne la foi nécessaire. Que ton Esprit Saint nous donne l'écoute et l'obéissance pour que nous puissions entendre maintenant ta parole et que cette parole, Seigneur, soit fortifiante. Bénis notre frère Fred qui va rendre ce service au matin. Que ton esprit, Seigneur, conduise toutes choses. Que ta parole aussi, Seigneur, grandisse dans le cœur de nos enfants, de nos jeunes, de nos grands, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton bien-aimé, notre Sauveur. Bénis-nous à l'écoute de ta parole. Amen. Amen. Feu.
Merci. Mets la pression quand même. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Bon. Ben, ça fait plaisir de vous voir, c'est bien. Bonjour. Ce matin, je vois qu'il y a des invités qui ne sont pas là habituellement. Les autres, je vous connais, vous aussi, les invités. Mais ce n'est pas souvent Anne-Marie ou Jean ou Lynn, Jean-Philippe ou Cathy. Donc, bienvenue. Marine aussi, Edouard. Bon, enfin bref, je ne vais pas faire la liste. Et puis tous les petits bébés qui sont là-bas. Enfin bon, bref. Voilà. Il ne manque que le nôtre. Donc, on va continuer ce matin dans Éphésiens. Parce que, voilà, on reste dans ce qu'on... Donc, pour ceux qui ne sont pas là habituellement, donc on fait une lecture continue de l'Épître aux Éphésiens. Là, on est arrivé au chapitre 4, et on va lire du verset 17 au 32. Alors, on hésite toujours quand il y a un passage aussi long. Je le lis ou je ne le lis pas? Bon, mais ça va, je le lis. Ça, c'est les invités. Déjà, ils s'imposent. Allez. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais bien plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Et pour finir, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Moi, je préfère boire un coup, là, parce que... Alors, la Bible, Ce passage, il nous rappelle ceci. Elle a été écrite pour être appliquée. Elle a été écrite pas simplement pour l'étudier, mais pour l'appliquer. Et donc l'apôtre Paul, il va utiliser des mots comme « voici donc », « c'est pourquoi ». C'est répété dans ce passage énormément de temps, de fois dans la deuxième partie d'Éphésiens. Paul nous rappelle « voilà ce que le Christ a fait pour nous, et voici maintenant ce que vous devriez faire pour Christ ». Nous devons mettre la parole en pratique, pas seulement l'écouter, vous savez, l'épître de Jacques. Hein, ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez-la en pratique. Donc, le fait d'être appelé en Christ doit nous conduire à marcher dans l'unité. Et le fait que nous ayons été ressuscités en Jésus-Christ devrait nous pousser, nous encourager à marcher dans la pureté. Paul dit en Romains à marcher en nouveauté de vie. C'est mieux. Pur, ça met un standard très haut. En nouveauté de vie, on peut renouveler tous les jours cette nouveauté. On est vivant en Christ, on n'est pas mort dans nos péchés, mais on doit se dépouiller de l'ancienne nature, vous savez, et revêtir la nouvelle. C'est tous les jours. C'est le programme de ce matin. Et on va essayer de trouver des points de raison et d'encouragement. Voilà. Donc d'abord, Paul, du verset 17 à 19, il va nous rappeler la nature et la vie des gens non chrétiens, non convertis, non sauvés, païens, enfin, comme vous voulez. Le résultat est le même, ils ne connaissent pas Jésus-Christ, tout simplement. Ils ne l'ont pas rencontré, personnellement. Ce n'est pas sur des qualités particulières hein, que nous aurions en tant que chrétiens. Des fois, on peut être comme ça. Hein. On est des pécheurs sauvés par grâce, c'est bon de se le rappeler. Nous ne sommes pas des gens exceptionnels. Voilà, je suis désolé. C'est la vérité. Enfin, moi en tout cas, vous peut-être, mais moi non. Mais plus on va entendre cela dans notre vie, dans notre pensée, dans notre cœur, sérieusement, et plus on évitera de tomber dans ce piège, vous savez, de penser que on est différent, qu'on est mieux, qu'on est meilleur, une espèce de suffisance. Des fois, on la trouve, hein, chez nous. Voilà. Chez moi, voilà, comme ça ne vous accuse pas. Alors qu'on devrait développer, au contraire, de l'empathie pour les gens non sauvés, on devrait développer du cœur pour ces gens-là. Et en plus, en le développant, ça va avoir un effet dans notre vie extraordinaire, c'est que nous allons réaliser que nous sommes sauvés par grâce. Encore plus fortement, parce qu'on va se voir, et donc ça veut dire qu'on va être attentif aux besoins des autres. Voilà. Nous ne sommes pas des gens extraordinaires, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. C'est pas mal. C'est pas non plus nul, hein. Au contraire, c'est même très bien. Voilà. Et on va être reconnaissant d'être sauvés. Donc, ce rappel, il est là. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Hein. On ne doit pas imiter la vie de ceux qui ne sont pas sauvés. C'est tout simplement cela que ça veut dire. Hein. Ne vous conformez pas au monde, Paul, il va dire. Hein. On a reçu la vie de Dieu, et la différence... Ça va expliquer entre celui qui est sauvé et celui qui n'est pas sauvé. Premièrement, les chrétiens pensent différemment des hommes perdus. C'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle. Et là, l'importance de la pensée, hein, renouvelée dans vos pensées, l'importance de l'intelligence de la pensée. Notre intelligence participe à cela. On n'est pas juste sans intelligence. Non, notre intelligence, notre pensée participe à notre comportement. Le salut commence par quoi ? Par la repentance. La repentance, c'est quoi ? C'est un changement de pensée. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Alors, je vais vous le faire. Hein. Voilà, vous êtes convertis, vous retournez. Très bien. Mais quand vous vous retournez, votre pensée n'est plus la même. C'est comme ça, c'est un don de Dieu. Hein ? Toutes les valeurs, tout, notre personnalité, tout change, notre interprétation en fait, de la vie change quand on accepte le Seigneur. C'est comme ça. Hein ? Et donc, celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'est pas sauvé, Ben, Paul nous dit que cette vie-là, ben, elle est futile. Cette pensée-là, elle est futile, elle est vaine. Elle n'a aucun but important. Mais ce n'est pas une critique de valeur d'humain. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est celui qui n'a pas accepté Christ, la vie n'a pas trop de sens. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est quasiment de la philosophie, en fait. Hein. Comme il ne connaît pas Dieu, ben, il ne peut pas comprendre le monde. Il ne peut pas se comprendre lui-même. Quelque chose l'attire, pas forcément vers le bien, mais il ne sait pas pourquoi. Le monde a beaucoup de connaissances, mais le monde a peu de sagesse. Et ça, on peut le voir tous les jours. Et donc, la pensée de l'homme non sauvé, non chrétien, elle est futile. Pourquoi ? Parce qu'elle est obscurcie. Voilà. Et bien sûr, l'homme pense être éclairé. Hein ? C'est les idiots, c'est ceux qui croient en Dieu quand même. C'est les non-chrétiens, quand même, eux aussi, ils ont une forme de suffisance suivant où en est leur cœur quand on leur parle du Seigneur. Il y a des moments où ils ont moins de suffisance, mais sinon, ils en ont eux aussi. Hein. Donc nous, ne tombons pas dans cette suffisance. L'Épître aux Romains nous dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ben, ça, on le voit tous les jours. Il n'y a pas besoin de discours, il n'y a qu'à allumer la télé. Hein. Ils sont fous. Hein, des fois, il y a des trucs. Bon, enfin bref. L'homme perdu est mort. À cause de quoi ? De son ignorance spirituelle. Hein. La vérité et la vie marchent ensemble, vont de pair. Hein. Si on croit à la vérité de Dieu, on reçoit la vie de Dieu. C'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Alors parfois, on se dit que le non-chrétien, quand même, quand il commence à être touché, il va faire tous ses efforts hein, pour sortir de là, pour se rendre compte que c'est inutile, futile. Hein. Mais il ne peut pas, en fait. Il ne peut pas, parce que personne ne peut se sauver lui-même. Et ça, on oublie ça, nous, en tant que chrétiens. Hein. Parfois, comme chrétiens, on pourrait penser qu'on est au-dessus des non-croyants. Je l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Hein. On est quand même mieux, nous. Quand même. Hein. On est sauvés. Quand même. On fait partie de la race élue. On est beaucoup de choses. Hein. Mais il y a quelques versets qu'on devrait se répéter, ou en tout cas qu'on devrait avoir en tête. J'en ai pris quelques-uns, mais... Car vous êtes sauvés. Par la grâce, par la foi, c'est là où ça fait mal. Et cela ne vient point de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Ça remet les pendules à l'heure. Voilà. Hein ? On a accepté le Seigneur, très bien. Et peut-être ce matin, il y a des personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur. Alors soyez les bienvenus. On a accepté le Seigneur, mais c'est grâce à lui en fin de compte. Hein ? Donc, en ayant accepté le Seigneur, Paul nous dit, ben maintenant, on ne doit plus marcher comme des païens. Responsabilité. C'est pas rien. Hein ? On est en relation avec Christ. Cette relation est fondée sur sa parole. Et on veut apprendre la vérité telle qu'elle est en Christ. Alors, plus je vais comprendre la parole de Dieu, plus je vais connaître son Fils. Là aussi. Hein. Il y a des fois des chrétiens, on parle avec eux, ils disent « Oh non, mais la Bible, je ne comprends rien, c'est pas intéressant. » C'est pas intéressant, et pourtant, c'est le moyen de grandir en Jésus-Christ. C'est le moyen de le connaître, de mieux le connaître. C'est le moyen de tellement de choses. Essayez, réessayez. Soyez pas ambitieux, pas à pas. Hein. Parce que la Bible, c'est la révélation de Jésus-Christ, de Genèse à Apocalypse. Donc, l'homme, le non-chrétien, spirituellement, il est ignorant. Il serait bon que le chrétien soit dans la connaissance. Voilà. Hein. On a cru la vérité, on a reçu la vérité. Alors maintenant, on est invité à marcher à la suite du Seigneur et non d'après l'exemple du monde. La vie passée, le vieil homme, vous savez, ça, c'est du vocabulaire très chrétien, le vieil, enfin, qui est biblique, hein, mais hein, c'est très chrétien. Alors le vieil homme, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un vieil homme, c'est notre ancienne nature, avant que nous ayons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Hein. Et c'est pour ça qu'on est invité à marcher en nouveauté de vie, quand on est devenu chrétien. Quand on est devenu chrétien, on n'a pas simplement changé nos pensées, on a changé de citoyenneté. On n'est plus de ce monde. Alors, s'il y en a qui sont non chrétiens ce matin, ils doivent se dire, mais où ils sont, dans quel monde? Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Voilà. On appartient à la nouvelle création de Dieu, et c'est les désirs de l'ancienne création qui doivent, ne doivent plus diriger notre vie. C'est du boulot, hein? C'est du boulot. Hein? Et ça, c'est la position comme chrétien. C'est l'argument que développe l'apôtre Paul. Nous appartenons à la nouvelle création en Christ. Comment ? En étant renouvelés par l'esprit dans notre intelligence. La conversion, c'est une crise hein, qui mène à un processus. C'est vrai, c'est une crise. Hein, quand on accepte Jésus, le monde change. Hein. Ah. Ouais, c'est du surrende. Merci. Ah, mais ça continue, hein. Il faut l'arrêter tôt ou tard. Hein. Il obéit pas seul, c'est l'inconvénient. Bon. Non, non, mais c'est pas gênant. Hein. Alors, on continue. Bon, ben invitons-le à venir. Allez, on continue. Donc, je disais, la conversion, c'est une crise qui mène à un processus. Hein, quand on s'est converti. Moi, quand je me suis converti, ça a vraiment été une crise dans ma vie. Quoi. Hein. Je me suis converti, le lendemain, j'avais plus d'amis. Hein. Et ouais, j'étais tout seul. Heureusement que j'avais des frères qui sont arrivés, parce que sur le coup, quand même, ça fait un choc. Hein. On se dit dans quoi je me suis mis. Quelle galère. Et puis, Dieu agit dans notre vie. Donc, nous avons reçu une nouvelle position dans sa nouvelle création, mais jour après jour, on doit s'approprier par la foi ce qu'il nous a donné. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà, un fondement. Donc, au fur et à mesure que notre intelligence comprend la vérité de la parole de Dieu, elle est transformée par l'Esprit en nous et elle devient vérité et vie. Et c'est vraiment un processus. Et je pense que chacun, vous l'avez expérimenté. Et ça, c'est ça qui nous transforme. C'est ça qui amène à changer de vie, à changer de manière d'être. Voilà. Des fois, au début, on veut accélérer ce processus. Ça ne nous réussit pas trop. Des fois, on va aller plus vite que ce que le Seigneur nous met comme rythme. Hein ? C'est un peu comme physiquement... On est ce qu'on mange. Moi, si vous m'aviez vu il y a 15 ans, je n'étais pas pareil. J'ai mangé entre-temps. Voilà. Eh bien, spirituellement, nous sommes ce que sont nos pensées. Spirituellement, nous sommes ce que sont nos pensées. C'est pour ça que c'est tellement important de méditer chaque jour la parole de Dieu. Tellement important de prier. Tellement important d'être en communion avec le Seigneur. Avec nos frères, avec nos sœurs. Tellement important. Ce n'est pas juste un jeu, c'est une force. Et là, on pourrait se dire, donc, ben, super. Hein? Mais comment je vais voir que ça vit dans ma vie? Comment je vais voir que ça, y a quelque chose qui se passe? Parce que bon, on veut, on a besoin de ça. Et donc, l'apôtre Paul, il ne se contente pas d'expliquer un principe, puis de l'abandonner. Non, il va l'appliquer à différents domaines de la vie où son influence doit être ressentie. C'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a choisi des attitudes extérieures que tout le monde peut voir. Ce n'est pas un hasard, parce que ça parle de notre témoignage. Hein ? Il a choisi, il nomme des péchés qui nous parlent du comportement et de leur interaction avec les autres personnes. Hein ? On est chrétien ? Voilà le standard sur lequel le Seigneur nous attend. Hein ? Ce n'est pas un commandement, c'est un fait. On a reçu le Seigneur, voilà qui nous sommes devenus. Hein ? Le Seigneur nous avait prévenu, il a dit, vous serez mes témoins. Ils reconnaîtront par votre attitude, par la manière dont vous vous comportez, que vous êtes de moi. Il n'a pas donné des exemples comme l'apôtre Paul, là, tu ne tueras point, ou des trucs énormes. Non, il a donné des choses très très concrètes, très pratiques, qu'on vit tous les jours. Il y a très longtemps, maintenant on peut dire ça, il y a très longtemps, je me rappelle, il y avait un chrétien qui m'avait dit que le témoignage, un vieux chrétien, il m'avait dit le témoignage, c'est, ça se fait au fil du temps. Et ce qui touchera beaucoup de gens, c'est que vous n'avez pas varié dans votre foi. Et ça, ça se fait sur le temps. Et je crois que c'est vrai. Et je crois que c'est vrai. Donc l'apôtre Paul, il prend des choses très simples. Très, très simples. Et il nous dit, voilà, il y a 5 attitudes. Il aurait pu peut-être en prendre d'autres. À bannir. Il nous dit, évitez-les. Mais en plus, il nous dit pourquoi. Donc, premièrement, au verset 25, le premier, le mensonge. Je vous le relis. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité. Car nous sommes membres les uns des autres. C'est pas rien. Alors, je vais vous faire la définition, même si c'est un peu stupide, c'est pas grave. Un mensonge, c'est quoi ? C'est une affirmation contraire à la vérité. C'est pas compliqué, hein ? Faite dans l'intention de tromper l'autre, quand même. Il y a ça derrière aussi. Hein, voilà. Si par exemple je vous dis qu'il est midi et je me rends compte que ma montre n'est pas à l'heure, ben, je ne vous ai pas menti. Vous voyez ? Par contre, si je vous dis qu'il est midi et que je sais que vous allez rater le train à cause de mon mensonge, là, c'est pas là, on n'est pas dans la même... Là, je suis un vrai menteur. Quoi. Hein ? Qui est le menteur absolu ? Satan. Satan est un menteur, lui. Hein ? Donc, chaque fois qu'on va dire la vérité, l'Esprit de Dieu est présent. Quand nous mentons, Satan agit. Ce n'est pas un truc énorme, parce que son esprit est contraire à la vérité. Voilà. Hein ? Parfois, on croit qu'on va aider les gens en leur mentant. C'est vrai, ça vous est arrivé. Pardon, peut-être pas. Moi, ça m'est arrivé. Vous savez, des situations où on se dit, il vaut mieux pas qu'ils sachent. Parce que c'est difficile à entendre, parce qu'il peut avoir plein de bonnes raisons. C'est marrant, mais il y a quelques années, je vous aurais dit, j'aurais peut-être eu ce langage. Mais aujourd'hui, en fait, je le dis clairement, c'est pas vrai. Hein ? On ne verra pas les conséquences immédiates, mais tôt ou tard, elles finiront par se manifester. 1 Jean, chapitre 2, verset 21. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas facile à des moments, mais aucun mensonge ne vient de la vérité. La vie chrétienne est régie par la vérité. Et là, encore une fois, c'est ça qui est toujours génial à la parole de Dieu. L'apôtre Paul, il nous dit pourquoi. Hein ? Nous nous appartenons les uns aux autres en Christ. Et donc, nous sommes appelés à nous encourager, à nous édifier dans la vérité. Imaginez qu'on s'encourage dans le mensonge en permanence. Ouf, au bout d'un moment, hein, ce serait lourd quand même. Hein ? Donc, on est encouragé à s'édifier dans la vérité, disant la vérité avec amour. Voilà. Bon, ça semble des fois pas évident. Hein ? Alors, comme membres les uns des autres, on exerce une influence les uns sur les autres. Et on ne peut s'aimer, on ne peut s'encourager en dehors de la vérité. Voilà. Hein ? Pour rappel, le premier péché jugé dans les actes, hein, ça a été un mensonge. Ça n'a pas bien fini. Hein, pour ceux qui... Vous irez le lire, hein, acte 5, verset 11. Ça n'a pas bien fini. Après, ensuite vient... Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. La colère. La colère. Une pulsion émotionnelle provoquée par quelque chose qui nous déplaît, qui nous contrarie. Et en elle-même, la colère n'est pas un péché. Hein ? Paul nous le dit. Même Dieu peut être irrité. Hein ? L'expression de la colère de l'Éternel apparaît dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Et il est dit que la colère, elle s'enflamme, elle peut être donc comparée à un feu. Donc la colère d'un homme peut s'éteindre, mais au contraire aussi, elle peut prendre force et détruire. Hein ? Alors il nous est honnêtement difficile d'avoir une vraie sainte colère, sans péché. Enfin, moi, j'en suis incapable. Enfin, non, c'est même pas ça. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je suis en colère, je ne pêche pas. Moi, je n'y suis jamais arrivé, en tout cas. Ça doit être rare. Ça doit être rare parce que nos émotions, elles sont toujours teintées de péché. Hein ? On n'a pas la connaissance que Dieu a. Donc, lui, il peut se mettre en colère sans péché, mais nous... Ouais, peut-être, mais j'y crois pas. Enfin, non, c'est vrai que j'y crois pas. Moi, en tout cas, je ne sais rien, quoi. Voilà. Parce que Dieu, il voit tout, il comprend tout. Pour lui, ça va, mais pour nous. Alors Paul, l'apôtre Paul, toujours aussi généreux avec nous, il nous propose une solution qui est beaucoup, beaucoup plus à notre portée. Si nous péchons par la colère, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, on doit régler rapidement la question. Et comment ? On ne laisse pas le soleil se coucher, hein, sur notre colère. Il vaut mieux que ce soit en été. Non, mais c'est vrai. Quand on y réfléchit, on a plus de temps. En hiver, là, en ce moment, c'est chaud, hein, faut accélérer. Hein. Voilà. Donc, ne laissez pas le soleil se coucher sur notre colère. Et c'est génial comme conseil. Hein. Alors, moi, je peux témoigner qu'avec Sylvie, non, mais c'est là, pour le coup, c'est vrai. Quand on se met en colère l'un contre l'autre, c'est une règle qu'on a mise, c'est vrai, hein, Sylvie. Nous, on ne se couche pas sur notre colère. Ça, on la laisse pas, on règle le problème. Je ne vous parle pas des colères, des colérettes, hein, les petits trucs. Hein, du genre, je suis en voiture avec elle et je lui dis, mais pétard, mais tu conduis bien mal. Ça, c'est rien, ce n'est pas des colères, ça. Non, on est en colère, quoi. Hein. Eh bien, jamais, 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 on s'est couché. Donc, ce témoignage, c'est juste pour vous dire que ça marche. Ça marche. C'est vraiment un conseil que Dieu nous donne. On doit faire la paix avant d'aller s'endormir. Hein. Dans ce domaine, il ne faut pas laisser le diable avoir accès à notre colère. Hein. La colère ne doit pas nous maîtriser, c'est nous qui maîtrisons la colère. Voilà. Alors après, il y a des gens plus colériques que d'autres. Peut-être c'est plus facile pour certains, plus difficile pour d'autres. Mais en tout cas, c'est l'invitation de chacun. Parce que se mettre en colère, pile poil, au bon moment, au bon diapason, la bonne intention, au degré exact, etc., etc. Mais, encore une fois, la parole de Dieu, Salomon, nous donne un conseil qui est génial, en Proverbe 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur. Mais une parole blessante excite la colère. C'est génial. C'est vrai, non ? Hein ? Si vous étiez moyennement en colère et qu'on vous fait une réponse douce, mais si à l'inverse, on vous rentre dedans, en général, ça va exciter la colère. Donc, voilà. Après, il y a le vol. Alors là, c'est pareil. On ne commet pas de vol. Hein. Satan est un voleur. Hein. Regardez, il a même, j'ai réalisé ça, il a même fait... Adam, il a volé... Adam et Ève, ils ont volé le fruit qui leur était interdit. C'était déjà un acte de vol, en fait. Vous voyez, il a commencé tôt. Hein. Donc, c'est un voleur qui a pris un fruit qui ne lui appartenait pas. Et ça m'a fait réaliser, c'est beau de voir que le premier Adam est un voleur chassé du paradis. Et le dernier Adam, le Seigneur, il se tourne vers un voleur sur la croix et il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. La boucle est bouclée, j'ai trouvé. C'était pas mal. Bon, voilà. Vous pouvez la redire. Donc, l'apôtre Paul, là aussi, encore une fois, c'est génial. Il veut pas... Il pourrait juste arrêter, ne voler pas. Et alors, oui, bon, ça va, on a compris. Mais lui, il exhorte à travailler. Hein? Mais encore une fois, il exhorte à travailler, mais pas que pour lui, pas pour soi, afin de donner à ceux qui sont dans le besoin. Vous voyez, ça va toujours plus loin, la parole de Dieu. C'est même ce qui la rend des fois fatigante, parce qu'on se dit, déjà, je travaille, c'est bien. J'ai arrêté de voler, c'est bien. Mais en plus, je travaille pour donner aux autres. Ça fait beaucoup. Mais c'est là où toujours nous attend le Seigneur. C'est toujours au-dessus. Hein. Toujours un niveau plus élevé. Hein. Toujours. Hein. Même le travail honnête peut devenir égoïste. Donc la parole nous pousse toujours plus loin. Elle ne se contente pas de nous ramener dans le chemin, elle veut nous amener plus loin dans ce chemin. Hein. Ne vole pas, non, travaille. Dans le but de tes besoins, mais afin d'aider les autres. Ensuite, les paroles mauvaises. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que de considérer le mot « bouche » qu'on peut voir en Romains, hein, voir comment le Seigneur produit une différence dans l'expression humaine. En Romains 3, verset 14, il est dit « La bouche du pécheur est pleine de malédiction et d'amertume. » La bouche du pécheur. En Romains 10, 19, c'est joyeusement qu'il confesse de sa bouche le Seigneur Jésus. Vous voyez ? Le même instrument, pas le même fruit. Changez le cœur et vous changerez le langage. C'est très simple. Hein ? Voilà. Voilà. Changez le cœur. Où en est votre cœur sera votre langage. Hein ? Moi, je me rappelle, il y en a qui connaissent l'histoire, mais peut-être qu'il y en a qui ne la connaissent pas. Donc... C'est quelque chose qui m'a marqué. Donc moi, en 82, il y en a un paquet qui n'étaient pas nés là. En 82, donc, je suis jeune chrétien, plein de zèle, et je monte un magasin d'instruments de musique à Montpellier. Donc ce magasin, comment je l'appelle? Il y en a qui le savent, mais je vais vous le dire. Maranatha Musique. Maranatha Musique. Voilà. Eh bien, Maranatha Musique, c'est un baromètre dans ma vie de tous les jours. On avait des clients, on avait tout comme clients, hein. Des gars qui faisaient du jazz, du rock, il y en a qui égorgeaient des coqs sur scène, enfin, donc on avait de tout. Hein. Non, mais j'y étais pas, là. Et donc, quand on me demandait, mais qu'est-ce que ça veut dire, Maranatha ? Ben, suivant comme j'étais, mon langage de mon cœur, je disais, ils reviennent dans la paix, mais qui ? Jésus-Christ. Mais, ah bon, mais tu crois en Jésus ? Puis voilà. Puis d'autres jours, ça veut rien dire. C'est joli, ça nous a plu, c'était joli, mais c'est tout, ça veut strictement rien dire. Et oui, le baromètre du cœur, il est là. C'était simple. Hein. Et juste après avoir dit ça, je me disais, oh, quelle honte. Mais voilà, je suis qu'un homme, pardon. Voilà, donc, c'était vraiment un baromètre dans ma vie, ça. Hein. Et donc, moi, je pense que chacun, il faut trouver notre baromètre. Et on saura reconnaître la mauvaise parole à corriger, tout simplement. Voilà. Hein ? Un remède, s'assurer que le cœur est rempli de bénédictions. Remplissons nos cœurs de l'amour de Dieu. Et comme cela, seule la pensée du Seigneur en sortira. Voilà, tout simplement. Hein ? Colossiens 4, 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Voilà, voilà un meilleur conseil. Hein. Toujours penser que vos paroles produiront soit du bien, soit du mal. Et Paul nous dit de parler d'une manière que nos paroles édifient, que nos paroles ne déchirent pas. Hein. Un ministère de grâce. Si vous avez oublié le pouvoir de la langue, relisez encore une fois le troisième chapitre de l'Épître de Jacques. Vous allez voir, c'est un bon rappel. Et enfin, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Là, il a réuni pas mal de choses. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas les détailler. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est comme une conclusion, là. Hein. En tant que chrétien, on ne s'appartient plus, on est sa propriété. Rappelons-nous cela. Hein ? Alors toute crise, toute colère, toute amertume, on doit les faire disparaître entre nous, car comme toujours, cela sera bénéfique à chacun et à tous, à la communauté des saints. Avec le Seigneur, je l'ai déjà dit, le but est toujours plus grand que nous, toujours. Hein ? Il ne concerne jamais seulement notre personne. J'avais écrit notre petite personne, puis je l'ai rayé, mais je ne trouve pas ça gentil. Il ne concerne seulement que notre personne. Et je crois que parfois, on devrait lever les yeux au ciel, comprendre qu'on a été racheté à un grand prix, comprendre que nos frères et sœurs ont été rachetés à un grand prix, et comprendre que l'humanité attend qu'on lui témoigne. Par notre attitude aussi, pas simplement par des paroles. Hein ? Ce sera bénéfique à chacun. Hein ? Nos colères, souvent, nos méchancetés, elles ne pèsent pas lourd face à cela. Hein ? On se met en colère, puis d'un coup, on se rappelle cela, et voilà, ça change la perspective. Et enfin, par contre, le commandement de l'apôtre, il dit tout de notre appel dans cette vie, pas besoin de 10 000 paroles, encore une fois, peut-être que tout ce message servait à rien, simplement, merveille de la parole de Dieu, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Là, il y a 3 commandements. Soyez bons. Facile d'être bon. C'est facile parce que quand on n'est pas bon, on le sait. Donc déjà, c'est facile. Soyez compréhensifs les uns envers les autres. Là, ça parle vraiment de se mettre au diapason de l'autre. Soyez compréhensifs. Hein ? C'est vraiment notre être intérieur, là. Et enfin, pardonnez-vous les uns les autres. Voilà. C'est être plein de bonne grâce. Hein ? C'est donner inconditionnellement, c'est accorder gratuitement une faveur. C'est vraiment tout le sens de ces mots. Hein ? Et la raison de cela ? Il y a toujours une raison dans la parole de Dieu. La raison, elle nous est dite juste après, c'est que Dieu en Christ, il est bon, il est compatissant et il est miséricordieux hein, envers chacun de nous. Alors ce matin, c'est cela qu'on devrait retenir afin de remercier le Seigneur de cette générosité, cet amour envers nous. Hein. Cela nous relève vers le ciel. Il est bon de lever les yeux au ciel. Hein. Et il est bon de le pratiquer dès aujourd'hui. Comme j'ai dit au début, la parole de Dieu, on la met en pratique. Elle nous invite sans arrêt à la mettre en pratique. Voilà. Réaliser que... Comment il y a un moyen de se faciliter la vie, vous savez ce que c'est ? C'est que nous sommes aimés de Dieu. Peu importe si à nos yeux, c'est normal, peu importe si c'est pas normal, peu importe si c'est juste, peu importe si c'est injuste, nous sommes aimés de Dieu. Et quand nous recevons ça dans notre cœur, alors notre comportement va changer. Voilà. Je suis aimé de Dieu. Voilà. Alors, vous savez, il va y avoir comme 2 catégories de personnes. Une qui va se dire, mais je suis aimé de Dieu, mais ce n'est pas normal. Ben si, c'est normal. Et l'autre va se dire, c'est normal, je suis aimé de Dieu. Alors là, ce n'est pas normal. Vous voyez, il y a le juste, il y a le juste. Le baromètre, ce fameux baromètre. Hein, voilà, cet amour, cette bonté, cette compassion, c'est la cause, mais c'est aussi la conséquence. C'est aussi l'invitation, c'est aussi la position que nous avons dans notre vie, à marcher simplement, cœur à cœur, avec le Seigneur et avec nos frères. Voilà. Et pour finir, d'être des témoins, parce que c'est notre mission. Amen. Je vous invite, on va juste prier et que le Seigneur nous parle. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus, parce que ta parole est la vérité, Seigneur Jésus. Et merci parce que je te demande que cette parole descende dans chacun de nos cœurs pour nous rappeler combien nous sommes aimés de toi, Seigneur Jésus, et combien nous devons aimer les uns et les autres, Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis, bon dimanche. Merci de revenir.
Bravo Fred, merci. Merci de nous avoir rappelé que la parole qui nous a été adressée, qui nous a été donnée, l'a été pour que nous puissions la vivre et marcher à la lumière de son inspiration. Ceux qui tournent les regards vers le Seigneur rayonnent son rayonnant de joie, nous a dit le psaume 34. Nous voulons continuer de tourner nos regards vers le Seigneur en partageant les signes de son amour et de sa vie donnée. Ce repas du Seigneur que je voudrais introduire est un repas à trois dimensions d'une certaine façon dans le temps. Il nous tourne vers le passé pour que nous puissions méditer à nouveau la croix. Cette croix où Jésus fut crucifié, accomplissant ainsi Ésaïe 53. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et heureusement que ça ne s'arrête pas là. En partageant ce pain et en partageant ensemble ce vin, nous actualisons, non pas ce sacrifice, mais oui, nous disons, ici et maintenant, par ce geste, notre foi renouvelée en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour que nous vivions d'une vie abondante. Et ça ne s'arrête pas là. Hier est passé, aujourd'hui est à vivre, mais demain arrive. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il rappelle l'institution de la Sainte Cène en 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 et suivants, il nous dit que nous annonçons la mort et la résurrection du Seigneur, nous proclamons la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est bouleversant de vivre la Sainte Cène, ce repas que nous allons vivre à l'aune de cette perspective. Hier est passé, je suis pardonné. Aujourd'hui, je choisis à nouveau de mettre ma foi dans le Seigneur qui s'est donné pour moi. Demain, l'espérance glorieuse que Jean nous partage au chapitre 19 de l'Apocalypse. Réjouissons-nous, soyons dans la joie. Et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant et pur. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin de l'agneau. Voilà notre bonheur, et dès à présent, nous pointons vers ce jour. Le Seigneur a dit, je ne la prendrai plus avec vous jusqu'au jour où je la prendrai avec vous. Et nous sommes entre ces deux temps. Et que notre partage soit signe de joie et de ce moment. En le vivant ici avec ses frères et sœurs, je dis aussi que je le vivrai avec celui qui est la tête de l'Église. Et si tu ne sais pas encore pourquoi tu ne le vis pas, alors je vais te dire que tout au long de ce culte, on t'a dit que Jésus frappait à la porte de ton cœur. Et que si tu ouvres cette porte, il entrera, il soupera avec toi et toi avec lui. Tu peux ouvrir cette porte si tu le désires. Et le Christ viendra souper avec toi. J'invite les musiciens à venir pour nous.